Azul, ça veut dire shalom. Hein. Donc, j'ai réfléchi avant de savoir quoi partager avec vous. Puis je me suis dit, bon, je suis pas souvent là, quoique vous me voyez depuis plusieurs mois maintenant, de temps en temps des apparitions. Mais je m'exprime pas beaucoup parce que le vent est fort et qu'il y a beaucoup de problèmes devant, quoi. Hein. Mais je me suis dit quand même, ça serait bien de partager un petit peu avec vous des expériences et aussi de voir comment le Seigneur agit dans des situations différentes. Et peut-être que, j'espère pas, mais peut-être qu'on connaîtra un jour dans ce pays, hein. La guerre est à la porte, hein, ça on le sait. Donc, moi personnellement, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 17 ans. Donc, un petit copain de quartier comme ça, qui parlait de Jésus. Et je disais, mais comment... il était aussi algérien, donc, et c'était un chaoui. Et puis, je disais, mais quand même... pour nous, si on veut vraiment s'intéresser à Dieu, il faut commencer par notre bagage islamique, là. Et puis, il me disait, non, mais tu sais, si tu veux connaître Dieu, c'est possible. Moi, je l'ai rencontré, qu'il disait. Alors, il sortait tout droit des camps de vacances chrétiens, là. Il était bien remonté. Et puis... Donc, j'étais interpellé parce que les réponses qu'il donnait à toutes les questions que je posais, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et donc, il ne s'est pas passé beaucoup de temps pour que je commence à me dire, mais tiens, c'est vrai, je n'ai jamais réfléchi à l'existence de Dieu ou des choses comme ça. Peut-être c'est le moment. Et donc, j'ai commencé à lui poser encore des questions, puis il m'arrête à un moment donné, il me dit, voilà, c'est simple. Si tu veux connaître Dieu, adresse-toi à lui. Alors, j'ai dit, mais comment, Dieu, il est où? Il est en bas, en haut, hein? Des questions toutes bêtes, quoi. Mais finalement, il m'a fait comprendre que si je priais avec sincérité, eh bien, il se passerait quelque chose. Eh bien, figurez-vous que ce quelque chose, il n'a pas tardé à venir. Deux ou trois jours après, il y avait un problème à la maison, quoi, dans la famille. Et puis, je suis sorti en me disant, bon, il y en a marre des problèmes, moi je vais prendre l'air. Et je sors, et puis en marchant comme ça dans la rue, je commence à réfléchir et je me dis, mais... pourquoi tu n'essayerais pas? Pourquoi est-ce que tu prierais pas Dieu? Et il m'avait bien expliqué que il suffisait de parler avec lui et qu'il pourrait comprendre tout ce que je dis et se révéler à moi. Et en marchant comme ça, tout d'un coup, quelque chose est venu sur moi, comme ça, je sais pas, une joie que je n'avais jamais connue auparavant. Très simple, mais je sentais que je vivais quelque chose de très fort, quoi. Et puis quand je suis retourné, donc, voir cet ami, là, il habitait le même immeuble. Moi j'étais au premier étage, lui il était au troisième. Et donc, j'étais en train de marcher vers lui. Et il me regarde, il me dit, c'est pas la peine de me dire, ça se voit sur ta figure. Il voyait que j'avais une transformation déjà. Donc c'était merveilleux pour moi, aussi pour lui bien sûr. Et puis ça a commencé comme ça donc. Et ce frère-là, il rejoignait un petit groupe de quartier où il y avait un couple suisse qui était là et qui ouvre leur maison pour les études bibliques, des choses comme ça. Et en fait, il était motivé pour travailler parmi les Nord-Africains. Donc je sais qu'il y en a qui sont dans cette direction. Je vous encourage à persévérer. Parce que des fois, ça paye. Hein. Et donc voilà, du 1 à 1, c'est quelque chose de simple. Ça s'est passé un petit peu sans éclat particulier, mais quand même. Et on voyait que moi, j'avais reçu la parole, quoi. Il y avait quelque chose, une transformation qui s'était faite en moi. Et puis, c'est des choses qui se passent. Tout à coup, je pense à un frère en Algérie, justement. Il racontait son témoignage et il disait, j'avais été invité à un match de foot, là, et il y avait des chrétiens parmi eux, là, et tout. Donc, et ça se passait comme ça. Et puis, d'un seul coup, pendant la mi-temps, là, il s'arrête, et puis l'autre, il continue à lui parler. Il lui disait, si tu veux connaître Dieu, c'est possible aussi, et quelque chose de très direct, comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, celui qui prêchait, le chrétien qui prêchait à l'autre, c'était, il lui parlait à lui. Mais celui qui rendait son témoignage, il était à côté, là, puis l'observait en observateur, comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les paroles que l'autre disait, l'autre contestait et tout, mais finalement, il disait, c'était comme s'il avait, il avait un langage de footballeur, bien sûr, et il disait, c'est comme s'il avait frôlé la balle, là, et tous les buts, c'est moi qui les encaissais. Donc, pour dire que des fois, Dieu nous utilise d'une manière peut-être détournée, ou je ne sais pas, mais ce n'est pas ce qu'on pense qui va se passer, mais ça se passe. Et au travers des uns, des autres, voilà, donc j'ai reçu la parole un petit peu comme ça aussi. Et puis, donc, après quelques temps, j'ai commencé à fréquenter un petit groupe. C'était ce même. Suisse, là, qui était là. Et c'était. J'habitais la cité Olivier de Serres, pour ceux qui connaissent. Oui. Donc c'était des grandes barres qui avaient été, je pense, construites au moment où il y avait tous les rapatriés d'Algérie, là. Et donc il y avait un foisonnement là-dedans. Et pas mal de Nord-Africains. Alors de ce fait, voilà, ça permettait de discuter et tout. Et après, c'était un autre, et puis un autre, et puis un autre, puis on était déjà un bon groupe. Alors, ce gars, il se dit, on ne peut pas continuer comme ça dans mon appartement, mais on va essayer de trouver un lieu pour louer, et puis voir. Et c'était une espèce de vieille usine qui était réformée, quoi, c'est-à-dire une usine qui ne fonctionnait plus. Et ils ont fait des pourparlers, ils ont cherché des fonds et ils ont acheté ça. Et c'est là que finalement ce noyau s'est développé. Et donc ça a marché très bien. De plus en plus de chrétiens. Moi, dans ma famille, j'ai vu deux de mes sœurs déjà venir au Seigneur. Et puis il y avait à cette époque-là, je ne sais pas si vous connaissez Samuel Grandjean, quelqu'un qui faisait des grands rassemblements pour enfants, et ça se passait où? À la mairie du 6e. Alors, donc, on faisait ça et tout, et il y avait quelques 600 enfants, je crois, majoritairement nord-africains, qui allaient écouter l'évangile là-bas. Et ce frère, il avait vraiment un don pour prêcher l'évangile au travers de petites scénettes comme ça et tout. Et j'ai un de mes frères qui aujourd'hui est aussi chrétien. Et il commençait ses prédications du style « Bon, il y en a un qui s'appelle, son nom commence par un Y. » Alors, tout le monde disait « Youssef ?» Non. « Yo-Yo ?» Non, non plus. « Y'a que moi !» Et c'était son personnage qui parlait justement des gens qui, pour eux, il n'y a qu'eux qui comptent, quoi. Et voilà. Et donc, je me rappelle que mon jeune frère, j'avais traîné un petit peu de force. Et puis maintenant, lui et toute sa famille sont chrétiens, quoi. Et donc, on voit comment le Seigneur travaille par des contacts un peu comme ça. Et puis, j'ai rejoint après la rue du Noir, pour ceux qui ont connu, en 76, je crois. Et puis, j'ai trouvé là d'autres frères aussi. Et je me rappelle du Papidois. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de lui. Voilà. Très, très simple comme gars, un petit bonhomme comme ça. Mais vraiment, qui prêchait de tout son cœur. Moi, ça m'a vraiment touché. Et j'étais vraiment encouragé par ça. Et puis, j'ai repris du zèle, quoi. Et puis, voilà. Donc, à cette rue du Noir, on a commencé à évangéliser un peu. Il y avait à ce moment-là une mission qui s'appelait la North Africa Mission. Donc, ils étaient venus sur Lyon, et puis j'avais demandé aux responsables, est-ce qu'on peut utiliser les locaux et tout ? Oui, pas de problème. Et puis, on a commencé à passer le film. Vous connaissez le film sur la vie de Jésus ? En arabe, donc à ce moment-là, c'était qu'en arabe. Et donc, on a passé ça, mais à ma grande surprise, la salle se remplissait, et les gens, ils étaient captivés, vraiment. Ça leur allait droit au cœur. Et bien sûr, ce film, à la fin, il y a un appel qui est présenté. Et plusieurs disaient, oui, pourquoi pas. On proposait la prière à ceux qui voulaient prier et tout. Puis je me suis dit, mais comment se fait-il qu'il y a une telle réponse alors que, finalement, on voit très peu dans les églises de Nord-Africains. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à la question et tout. Et ce film, ça m'a vraiment donné une idée intéressante. Parce que c'est à peu près en 80 à peu près où j'ai commencé à partir en Algérie. Et 81 même. Et de l'autre côté, en arrivant, il n'y avait pas trop de possibilités d'évangéliser, quoi. On rasait les murs. Et il fallait faire attention à sa conduite et à ce qu'on faisait, quoi. Si on était repéré, on pouvait avoir de sérieux problèmes. Et puis, donc, est venue l'idée de commencer à... Moi, j'étais dans une région, donc... Béjaïa, c'est une région berbère, donc un parler spécifique. Et donc, dans cette langue-là, on n'avait pratiquement rien, quoi. On s'est dit, il faut vraiment qu'on traduise au moins un évangile pour pouvoir y arriver. C'est ce qu'on a commencé à faire. On a commencé avec l'évangile de Luc, et ensuite les actes des apôtres, donc ça donne un aperçu du christianisme, quoi, hein. La vie de Jésus, et puis les premiers disciples. Et là, on a commencé à voir bouger des choses. Et puis... c'était 1, c'était 2, c'était 3, 10, 15, 20. Je me souviens, à un moment donné, je commençais à me décourager parce qu'il y avait eu un bon effort. On était peut-être une cinquantaine à ce moment-là. Et puis, d'un seul coup, on voit, ça redescend. On convoque un culte un peu spécial. Et je compte un petit peu les nombres de personnes qui s'étaient engagées à venir et tout. 35. Et au moment du rassemblement, on se retrouve à 5. Alors là, je commençais à me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un terrain aride, avec beaucoup de cailloux dedans. Donc, voilà, on a commencé comme ça, et puis on a commencé à traduire, donc les textes sont venus, et on est arrivé, je crois que dans les années 88 à peu près, on avait l'évangile de Luc bien préparé et tout. Et qu'est-ce qu'on entend? Il y a quelqu'un de... Vous connaissez la mission Campus? Voilà, il y a un frère qui me dit, mais pourquoi vous feriez pas ce film dans votre parler là? Alors je dis, ben oui, nous on aimerait bien, comment on peut faire? Alors du coup, il m'a fait la leçon un petit peu comme un gamin de 15 ans. Voilà, Mustapha, tu as un bon ministère, mais voilà, il faut que tu t'organises, il faut que tu fasses ceci, que tu fasses cela et cela et cela. Donc, je prends les conseils, puis il me dit, bon, ne t'inquiète pas, je vais prospecter, je vais voir ce qui est possible de faire pour trouver le budget pour ce film-là. Et 15 jours après, à peu près, il me rappelle en me disant, ça y est, c'est dans la poche. Alors, qu'est-ce qui se passe et tout, et je vais le voir. Puis il me dit, voilà, il y a un donateur au Canada qui a pris à cœur votre situation et il veut bien financer entièrement le film. Alléluia. Et donc, on se dit, bon, comment il faut faire? On reçoit le script et tout. Et on avait mis, je crois, à peu près 4 ans pour traduire Luc et Acte, pour avoir un bon résultat, quoi. Et là, en recevant le scénario, en 15 jours, ça y est, il était traduit. Parce qu'il était, il est tiré de l'évangile de Luc, comme par hasard. Et donc, on a pu appliquer ça très rapidement. Et on s'est mis au travail. 2 mois après, je crois, on avait choisi déjà quelques personnes qui pouvaient jouer les rôles et faire des voix. Et puis, on est venu sur Paris là, pour l'enregistrement. À l'époque, ce n'était pas possible de faire directement comme ça des. Et donc, on a mis à peu près 10 jours, je crois, pour enregistrer tout le film. On avait déjà une certaine expérience avec les enregistrements pour la radio et tout. Donc ça marchait bien. Et ce film, après, il a fallu attendre plusieurs mois pour l'avoir, mais un certain mois de mars 89, enfin il arrive. Alors on a reçu une cassette VHS là, avec sur l'image il y avait encore le time code là c'était pour démarrer au bon moment et tout. Mais le gars me dit bon, c'est juste un essai pour que vous puissiez contrôler ce film, s'il est vraiment bien, c'est bon, on va le sortir. Et je sais pas comment ça s'est passé. Il y a un bruit qui a couru, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais quelqu'un a entendu parler qu'on avait un film en Kabyle. Alors le gars, il vient me voir, il me dit, c'est vrai, vous avez un film en Kabyle? Alors je lui dis, mec, c'est qui t'a dit ça? Et tout, j'étais vraiment désarçonné, quoi, parce qu'on ne disait pas les choses ouvertement comme ça à ce moment-là. Et puis après, donc, il me dit, écoute, moi, je m'occupe de tout. On va le passer dans une salle à l'université, là, avec les jeunes. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui prends la responsabilité et tout. Alors, je lui dis, écoute, il faut que d'abord je consulte mes collègues et puis après, on verra. Et puis, dans la soirée, on a réfléchi, on s'est dit, bon, allez, on y va ou on n'y va pas. Et ça y est. On rentre, c'était une salle, peut-être à peu près de ce genre, non, plus que ça, parce qu'il rentrait à peu près 300 personnes là-dedans, le réfectoire, quoi. Hein. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au moment où les lumières s'éteignent et tout, le film commence, Silence radio. Tout le monde était là. Ah bon? Et c'était le premier film long métrage, disons, dans la langue. Donc c'était très important. Et on a regardé ce film en entier. À la fin, il y avait encore l'appel. Même pendant l'appel, tout le monde était silencieux. Je pense que beaucoup ont dû prier. Et puis après, ben, on se lève et puis on dit, bon, on peut faire un débat. Alors oui, c'était... Ici, on avait l'habitude de débattre comme ça et tout. Donc on arrive là-bas et certains commencent à critiquer et à dire, mais pourquoi vous avez fait ce film-là? Pourquoi vous n'avez pas fait un western en Kabyle? Pour voir, hein. Alors, on a dit, ben, parce que nous-mêmes, on est chrétiens. Ah bon? Et puis, certains autres, les islamistes, ils commencent à monter en disant, on a passé, je ne sais plus combien, 150 ans d'occupation, ou 132 ans, je crois, et voilà, ils veulent revenir par la porte de la religion, etc., etc. Et tout à coup, quelqu'un se lève dans la salle, comme ça, et dit, mais moi, j'admire ces gens. Alors, je me demandais ce qu'il allait dire, quoi, et tout. Puis il dit, eux, au moins, ils m'ont donné un choix. Pas comme avec l'islam, c'est... Voilà. Bismillahirrahmanirrahim, etc. Donc, les gens, vraiment, étaient... interpellé, puis il y a eu beaucoup de questions-réponses, comme ça, on a donné des choses, et puis on était poussé par l'élan, quoi. Et tout à fait après, on commence à se poser des questions, parce qu'on se dit, mais le lendemain matin, il y avait un article dans le journal, « Moubachirine fi Madinat Bejaïa ». Des prédicateurs dans la ville de Béjaïa. Moi, franchement, j'ai pris peur, je l'avoue. Et puis, avec mon collègue, je lui dis, écoute, il ne faut pas qu'on reste là, parce qu'on ne sait jamais, ça peut devenir explosif, quoi. Et donc, on prend la voiture, on est parti carrément dans le sud. Et il y a eu des suites à ça, c'est que les gens ont commencé à parler dans la ville. Les uns parlaient aux autres. Moi, c'est bien, bien simple. Le même jour, j'attendais quelqu'un. Il est monté dans la voiture. Il me dit, tu devineras jamais. Il me dit, j'arrive, c'est une ville à peu près à 20 km. Il me dit, dans le taxi, il y en a un qui parlait et qui disait, il y a le film sur Sinaï, ça. Et c'était l'étonnement. On commençait à se dire, oh là là, ça y est, on va se retrouver en prison. Et puis, on est parti. Et finalement, quelques jours après, quand on est revenu, on a trouvé que les choses s'étaient un petit peu calmées. Et voilà, donc on a été livré quelques semaines après, bon paquet de vidéos avec nos frères de Portes Ouvertes depuis la Suisse. Et on a commencé à distribuer. Je me souviens être monté dans des villages. Voilà, on roulait, on montait, on avait quelques cassettes avec nous chaque fois. Et puis, on arrive dans un village, on dit, bon, on va prendre un café, là, on rentre dans un café. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Le gars, il avait un magnétoscope, là, et c'était public, quoi. Il passait des cassettes, des films, des choses comme ça. Et on se dit, tiens, si on lui en proposait. Et hop, on a commencé comme ça. Et puis tout de suite, il en a pris un, et deux, et trois, et quatre. Et partout, on s'arrêtait, on proposait le film. Et voilà, au début, ça marchait parce qu'on n'était pas encore repéré. Et d'un seul coup, même dans les bus qui faisaient Béjaïa, Tizi Ouzou, Sétif, ou je ne sais plus quoi, là. Eh bien, le film, il passait, voilà. Tout le quart était évangélisé en même temps. Et il y a un attrait là, bien sûr, à cause de la langue, mais je pense que même dans l'Ouest, là-bas, ils ont commencé à faire ça avec le film en arabe, et ça a marché. Et puis donc, voilà, ça changeait la donne. À partir de ce moment-là, on a commencé à se dire, bon, on ne va plus chercher à aller essayer de trouver quelqu'un à qui parler, à son oreille ou je sais pas. Mais là, maintenant, les gens venaient directement vers nous. Et je me rappellerai toujours quelqu'un avec qui j'avais déjà pas mal discuté et qui me croise comme ça dans la rue. Il me dit, ah, j'ai vu le film sur Sidney. Et puis il commence à poser une question, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi, quand il lui dit, si quelqu'un te frappe là, tu dois présenter l'autre joue? Et c'est un grand discours qui commence. Et je vous assure que ça a mis du sel dans les épinards, peut-être. Et on a commencé à voir que beaucoup l'intérêt, il avait monté au-delà de nos espérances. Et voilà. Après ça, c'est passé à Tizi Ouzou, c'est passé dans d'autres villages de Kabylie, et ça a grandi, mais les médias, c'est quelque chose de fort, hein. Et on voit que les choses. Et puis, une réflexion, par exemple, d'une vieille dame qui disait, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit avant qu'on avait notre prophète? En parlant de Sidney Issa. Parce qu'elle disait, pour nous, notre région, surtout les illettrés, quoi, ils ne parlent pas très bien l'arabe, quoi. C'est surtout le Kabyle. Donc, il dit, ce qu'il a dit, là, j'ai tout compris, c'est bon. Et voilà. Et donc, il y avait un regain d'intérêt dans ce sens-là. Donc, ce film a fait une révolution. Et puis, on a compris à ce moment-là que c'est par ce moyen qu'on pouvait pénétrer les couches de la population, quoi. Parce qu'à partir du moment où il y a un intérêt, c'est. Alors, on a commencé, on a fait après. Un film sur la Genèse, en quatre parties. Abraham, Isaac, Jacob, etc. Et il faut aussi savoir que chez nous, on est un système tribal. C'est-à-dire qu'il y a des tribus, comme on dit, la roche, donc les tribus. Et finalement, c'est le système de base. Et autour de ça, on peut vraiment travailler d'une manière très profonde. Il y a ce qu'on appelle, dans la société kabyle, il y a ce qu'on appelle tajmaat, c'est-à-dire le rassemblement. Qu'est-ce que c'est que ce rassemblement? Ben, c'est comme la CGT ou je sais pas quoi, hein. C'est-à-dire, c'est un rassemblement dans le village. Et il y a le responsable du village qui veille à ce que toute chose. Et c'est très démocratique. Chacun peut prendre la parole et s'exprimer, quoi. C'est très utilisé pour les problèmes de fonctionnement du village, etc. Les décisions sont prises là, et celui qui ne les respecte pas, ben, il est mis au banc du village. Et c'est aussi bien utilisé pour la religion. Dans chaque village, il y a un endroit où les décisions religieuses sont prises, les rendez-vous, etc. Eh bien, ça nous a permis de nous introduire dans ces villages. Il y a beaucoup de villages en Algérie maintenant où il suffit qu'il y ait deux, trois chrétiens. Et ça devient. Ils ont un droit de parole au niveau de l'Assemblée, donc ça permet de faire avancer les choses. Peut-être un domaine qu'on ne soupçonne pas, mais par exemple les cimetières. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un décède? S'il est chrétien en plus. les musulmans, bon, on les amène au cimetière, il y a un cheikh qui vient, il fait la prière et tout. Et puis il est enterré à la manière traditionnelle musulmane. Mais les chrétiens, vous savez qu'on a eu de sérieux problèmes pour ça? Au moment où on a un frère qui est décédé, il y a peut-être maintenant 5 ans à peu près, d'ailleurs on a fait un petit reportage là-dessus, si ça peut être intéressant à regarder, les gens du village là sont allés jusqu'à Sétif, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de kilomètres de l'endroit où il était, et ils ont été voir ce qu'on appelle Shuhundinia, c'est-à-dire le parlement religieux, quoi. Et ils lui ont demandé, mais il est chrétien, on ne peut pas l'enterrer dans notre village. Et le gars a répondu, mais il est né dans ce village? Oui. Est-ce que tout le monde le connaît? Oui. Il dit non, il faut l'enterrer en tant que comme un musulman, quoi. Mais la famille n'était pas d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Est-ce que, je vous assure que j'en tremble encore quand j'y pense. On était dans ce village et il y en a un qui commence à vociférer là en disant, mais où ils sont ces chrétiens là? Et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Dans le sens, c'est pas eux qui vont faire la loi. Et puis, donc, il était question de l'enterrer une première fois dans le village, dans le cimetière musulman. Lui, personnellement, avait donné son accord. Il avait dit à sa femme, « Si je décède, vous pouvez m'enterrer dans ma propriété. » C'est-à-dire, ça se fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le droit coutumier. Donc, on peut obtenir une autorisation pour être enterré dans tel et tel endroit. Et donc, ils avaient creusé aussi une tombe là-bas. Et puis une troisième à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il fallait faire après ça? Moi, j'ai dit, écoutez, on n'est pas venu là pour faire la guerre. On ne va pas encore aggraver la situation. J'ai dit, c'est la famille qui doit donner son accord pour le corps d'une manière ou d'une autre. Alors il avait un jeune fils chrétien aussi, de 15 ans. Alors lui, ouvertement comme ça, d'ailleurs ce frère décédé là, il avait l'habitude de les narguer un petit peu avec l'islam, parce qu'il était féru des programmes qu'on voit sur le satellite là en arabe, et qui démontrent beaucoup de choses qui ne sont pas correctes, quoi. Et lui, il s'est élevé en disant « Non, il sera enterré ici, dans notre propriété et tout. » Et puis, ça a commencé à chauffer, quoi. Je crois qu'ils l'ont enterré une première fois comme ça. Et ensuite, ils l'ont déterré pour le remettre à un autre endroit. Alors, depuis ce jour-là, on se pose la question « Comment il faut faire avec les décès ?» Voilà. On laisse la responsabilité à la famille, ça c'est clair. S'ils veulent une cérémonie chrétienne, oui, pas de problème. On peut arranger ça. On en a fait plusieurs déjà. Et si c'est vraiment Donc si c'est traditionnel, normal, bon, on s'en mêle pas, quoi. On sait où est son âme et voilà. Donc, où est le problème, vous allez me dire, quand on vit dans ces situations? Je vais essayer de vous taquiner un peu pour que vous puissiez comprendre le fond du problème. Quand vous êtes une église, soit c'est une location, vous louez un local quelque part, si vous avez les moyens, vous pouvez acheter un local, mais de toute façon, ils vont trouver le moyen de vous... Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On laisse les gens, un premier temps, donc, fonctionner normalement. Nous, on a été souterrain pendant de nombreuses années. Et depuis 2014, non, un peu avant, depuis 2010, non, même avant, depuis 2000 à peu près, on a un local qu'on avait acheté. Et on faisait, mais c'était pas très grand, quoi, c'était la moitié de ça à peu près. Et bon, on pouvait fonctionner, là, c'était une grande tour, là, et on avait trouvé au rez-de-chaussée, c'était très bien. Et ensuite, on s'est développé, bien sûr, et puis on avait des cultes de 200, 300 personnes à la fois, et donc il fallait trouver quelque chose de plus grand. Et donc on a acheté dans un immeuble aussi, donc tout un étage comme ça, toute une surface à peu près 600 mètres carrés, et pour en faire des bureaux d'une part, mais aussi une église où on pourrait faire les cultes. On a mis ça au nom de l'église protestante d'Algérie, en se disant, là au moins, il n'y aura pas de problème, puisque c'est bien déclaré comme un lieu de culte. Et puis on a fait ce qu'on pouvait faire, et voilà Tipa que l'an dernier, au mois de juillet, je crois, on reçoit un courrier, présentez-vous à la sûreté de Wilaya, etc. Et puis on cherche le courrier, il n'y avait pas de courrier. On se renseigne au commissariat local, ils n'ont rien reçu. Et finalement, on atterrit à la police générale, là, qui est un truc central, là. Ah, c'est pour ça, d'accord. Non, on n'a pas cette lettre-là, non. Attendez, je vais me renseigner. Et pendant que qu'on patientait, ils ont fabriqué on peut dire ça, dans lequel ils nous accusent d'avoir utilisé des locaux commerciaux pour en faire une église. Et nous dire qu'on n'a pas d'autorisation pour rassembler du public, quoi. On demandait, est-ce que vous avez une autorisation pour ça, non ? Dans la loi de 2006, qui est une loi machiavélique, il y a cet article où on dit qu'il faut une autorisation du ministère des Affaires religieuses, quoi. On l'a demandé à plusieurs reprises. Moi, je me souviens avoir trimballé des dossiers à peu près comme ça, là, pour beaucoup de communautés. Alors, on faisait le tour. On allait à Alger, il nous renvoyait à tel endroit, il nous renvoyait à... Et puis, jusqu'au jour où le responsable des associations de notre ville m'a dit, écoute, si tu veux régler ton problème, il faut t'adresser au ministère directement. Parce que là, les petits villages, tout ça, il n'y aura pas de déblocage. Donc on est allé. Ils ont toujours été cordiaux, bien sympathiques, comme on dit, jusqu'au jour où je suis monté sur mes grands sabots pour leur dire la réalité. Et c'était le ministre des Affaires religieuses, là, et il commençait à tourner en rond. Je lui dis, écoutez, monsieur, ça fait combien de temps qu'on se connaît, là ? Je crois que ça faisait une dizaine d'années. Et moi, je représentais l'Église protestante, puisque j'en étais le président, et je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait pour nous ? Il me regarde, il était un peu choqué et tout. Je lui dis, zéro, monsieur, vous n'avez jamais bougé le petit doigt pour nous. Donc, et là, il s'est mis en colère. Son collègue, d'ailleurs, me disait, doucement, mais c'était plus fort que moi, quoi. J'ai dû lui dire la vérité en face. Et finalement, donc, il me dit, mais on vous a aidé quand même pour ceci, pour cela. Il cherchait des prétextes ici et là, mais en vérité, tout est verrouillé. Et aujourd'hui, pour décrocher des autorisations, il faut se lever de bonne heure. Je suis constamment en contact avec mes collègues ici et là, mais... Alors, Imaginez pour vous ici que vous n'ayez pas de local, quoi, que vous soyez chrétien. Comment vous allez procéder pour y arriver? Je ne sais pas, mais je veux dire, c'est comme si on vous disait, comme pour les musulmans, là, qui cherchent des mosquées, et qui finissent par en trouver quand même. Moi, j'ai discuté avec pas mal de gens bien placés là dans la religion, puis ils disaient non, c'est pas normal, ils devraient vous donner des autorisations et tout. Mais finalement, je remarque, moi, dans la rue où j'ai grandi, là, à Villeurbanne, il y a une mosquée qui a doublé d'ailleurs entre temps. J'ai visité ça avec un collègue il y a combien, peut-être 4-5 ans, et je me suis dit, tiens, ils ont finalement monté une mosquée là, très moderne, très sympa. Et puis là, j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps, elle a doublé. Ils ont racheté encore un terrain. Tout l'endroit où ils ont construit, bien sûr, c'était quoi? C'était le champ du curé. Donc ça appartenait à l'Église catholique. Mais voilà, c'est cédé aux musulmans. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas que les musulmans n'aient pas leur lieu de culte. Mais voilà, comment faire avec des mentalités comme ça? Alors, je pense qu'il faut apprécier les privilèges qu'on a et voir comment se retourner dans ces situations. En tout cas, actuellement, la solution, c'est de, en quelque sorte, de redevenir souterrain. Moi, ça me plaît bien parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Et par contre, c'est pas sécure, quoi. C'est pas sécurisé. Donc, je vais repartir la semaine prochaine, normalement d'ici une semaine, maximum deux. Pour combien de temps, je ne sais pas encore. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. J'en profite pour demander vraiment la prière pour ces sujets-là. C'est des murs qu'il faut faire tomber. Je me souviens qu'on avait fait, à un moment donné un espèce de festival où on avait pris pour thème. Et les murailles s'écroulèrent, tirées de Josué, où on voit que vraiment les choses peuvent devenir possibles. Et j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je peux dire que souvent ce qu'il en est, c'est que c'est un pas en avant et deux en arrière. Malheureusement. Est-ce qu'on arrivera à garder tous les fruits que je le pense, hein. Je me souviens d'un rassemblement qu'on a fait aussi aux Zouadia, c'est dans la région de Tizi Ouzou, où il y avait à peu près, d'après les sandwichs, il y avait à peu près 2000 personnes. Bon, il y a à peu près. Je peux vous assurer que quand j'ai vu ça, je vous assure que j'ai dû me cacher pour pleurer. Tellement c'était émouvant et saisissant, quoi. Quand on travaille des mois et des années dans des régions et puis qu'on voit que finalement le fruit est là, et il y avait des chants, il y avait de la ferveur vraiment. C'était magnifique. Moi, je pense que Dieu peut donner ces moments de réveil, de joie, de développement. Et j'espère qu'on verra des progrès dans ce sens prochainement. Voilà, je ne veux pas trop m'étaler, je ne donne pas trop de détails non plus, mais Je pense que j'en ai assez dit pour vous stimuler dans la prière et que je me sentirai des ailes dans le dos quand je serai sur place. Voilà, j'ai partagé d'une manière simple et fraternelle. Merci pour tous ceux qui prient pour nous, là-bas, on le sent. Il y a des moments forts, vraiment, où on sent qu'on est porté par la prière. Hein. Et pas seulement notre Église, mais beaucoup d'Églises. Donc, que vraiment Dieu fasse son œuvre et nous fortifie. Je suis très heureux de voir les frères tunisiens ici. Ça s'est bien passé, ce séjour. Oui. J'ai visité de nombreuses fois la Tunisie, donc je connais bien. Et c'est aussi difficile là-bas. Le Maroc, un peu moins. Il y a un petit peu une situation de conflit, là, d'une manière politique, je pense. Donc on n'y va pas trop. Pourtant, ils nous invitent, hein. La Libye aussi, c'était bien. Voilà, puis les frères d'Égypte et autres, ils nous visitent de temps en temps. Quoique en ce moment, les visas, ça, c'est bloqué. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Peut-être que je peux prier avec vous avant de terminer. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que tu es digne vraiment de recevoir notre reconnaissance, notre joie, notre paix. Et Seigneur, quand les moments deviennent sombres, Seigneur, tu es présent. Et Seigneur, tu nous encourages vraiment à marcher devant ta face, Seigneur. Merci pour tout ce qui se fait, Seigneur, ici et là. Sois vraiment béni pour toutes les délivrances, Seigneur. La prière monte vers toi, Seigneur, et tu réponds, Seigneur, à la prière. Merci, Père, pour la délivrance aussi de nos deux frères qui sont sortis de prison. Nous prions aussi pour ceux qui sont encore en prison, Seigneur, et que vraiment tu uses de grâce, Seigneur, envers tous tes enfants, Seigneur, pour que vraiment ta volonté se fasse au travers des difficultés. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.